Le carillon sonne dans le studio d'Europe 1. Il est midi.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Bonjour à tous. Un phénomène criminel dénoncé par le ministre de l'Intérieur ce matin. Les rodéos urbains font de nouvelles victimes à Pontoise. Ce week-end, deux enfants de 10 et 11 ans ont été percutés par un jeune faisant des acrobaties sur sa moto. Les deux sont grièvement blessés, dont une très jeune fille. Son pronostic vital est engagé. Doit-on renforcer les moyens de lutter contre ces rodéos urbains? Nous en parlons entre autres sujets avec nos débatteurs. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France et maire de Mennecy, et Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, membre de la NUP. Nous reviendrons aussi avec eux sur ce budget 2023 annoncé par le ministre des Comptes Publics. Dans la presse, Gabriel Attal annonce le retour de la rigueur budgétaire, mais des hausses de crédit inédites, historiques pour l'éducation nationale notamment. Et puis à suivre aussi, la sécheresse fait toujours souffrir nos agriculteurs. La Chine poursuit finalement ses manœuvres autour de Taïwan. Et puis bilan de la première journée de Ligue 1, c'était ce week-end sur notre antenne. Bienvenue à tous.
Europe 1.
La fillette de 10 ans renversée vendredi soir à Pontoise, toujours entre la vie et la mort, elle jouait à chat avec un garçon de 11 ans quand ils ont été percutés par un jeune faisant un rodéo urbain sur sa motocross. Elle souffre d'un traumatisme crânien et le garçon d'une fracture au tibia. L'auteur présumé des faits, 18 ans, a pris la fuite puis s'est rendu au commissariat le lendemain. Nous allons y revenir dans quelques instants au tribunal de Pontoise, mais avant la réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Marseille pour accueillir 65 nouveaux policiers. C'était ce matin.
D'abord, je veux dire que le gouvernement a la main extrêmement ferme contre non pas ces rodéos urbains, que l'on présente comme un mot positif, comme si c'était un spectacle, mais contre ces actes souvent criminels qui viennent tuer, qui viennent blesser très gravement des femmes, des enfants, comme on l'a vu très récemment dans le Val d'Oise. Il y a eu depuis 2 mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu, et 20 000 contraventions. J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale, pour ce mois d'août, l'intensification encore de ces contrôles et je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je souhaite renforcer l'arsenal législatif, je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables.
Gérald Darmanin au micro européen de Nina Pavan. Durcissement des contrôles face à ce phénomène criminel. Selon le ministre de l'Intérieur, à ce jour, les rodéos urbains sont punis de peines allant jusqu'à 5 ans de prison. La loi a été renforcée en 2018. Quelle sera la peine du suspect de Pontoise? Il est en garde à vue depuis samedi. Clément Barguin, vous êtes à Pontoise dans le Val d'Oise. La garde à vue va prendre fin dans l'après-midi.
Oui, c'est ici dans la salle 3 du palais de justice de Pontoise que comparaîtra dans l'après-midi ce jeune homme de 18 ans placé en garde à vue depuis samedi. C'est lui qui s'est présenté au commissariat de Pontoise et qui a reconnu les faits. Des faits qui se sont déroulés vendredi soir aux alentours de 21h15. Deux enfants, une fillette de 10 et un garçon de 11 ans jouent sur l'esplanade du quartier des Hauts-Marcouville quand une motocross en plein rodéo urbain vient les percuter avant de prendre la fuite. La fillette subit un traumatisme crânien. Elle est transportée à l'hôpital Necker à Paris où elle a été opérée à la tête samedi. Son pronostic vital est engagé. Si cet enfant reste en vie, elle aura de lourdes séquelles neurologiques, précise le parquet de Pontoise. Quant au garçon, il présente une fracture du tibia péroné. Il a également subi une amnésie traumatique. Le motard de 18 ans, suspecté d'avoir fauché ses deux enfants, je vous le disais, va donc comparaître d'ici quelques heures devant le tribunal de Pontoise. Ce que l'on sait, c'est qu'il était déjà connu des services de police pour conduite sans permis.
Clément Barguin au tribunal de Pontoise. Merci Clément. Et puis un autre rodéo urbain aux conséquences dramatiques en Gironde hier après-midi au Verdon-sur-Mer. Deux adolescents faisant des acrobaties à moto se sont percutés. L'un âgé de 14 ans est grièvement blessé. L'autre de 16 ans s'en sort avec des égratignures. Une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France. Cette semaine, elle va progressivement s'étendre à tout le territoire. Seuls deux départements, le Gard et le Vaucluse, sont pour le moment en vigilance orange canicule. Météo France met également en garde contre des feux de végétation dans le sud. Le vent se lève en mer Méditerranée. Autre vecteur d'incendie, la foudre, les orages. Ils ont provoqué un feu en Isère ce week-end dans les contreforts de la Chartreuse, pas très loin de Grenoble. Près de 200 personnes ont été évacuées, Chloé Lagadou. vous.
Oui, en prévention, 3 hameaux ont été évacués. Depuis 3 jours, 80 hectares de forêt et de broussailles sont partis en fumée. Au total, 270 pompiers sont aujourd'hui mobilisés. 2 hélicoptères bombardiers d'eau, 4 canadaires et 2 Dash poursuivent leur rotation. Des moyens aériens essentiels puisque cette zone est difficile d'accès par la route, explique le commandant Éric Brocardi, porte-parole des pompiers.
On est sur des paysages de col et montagneux. Donc ça veut dire que c'est un paysage qui alterne entre des vallons, entre flancs de collines, flancs de montagne, avec des zones assez abruptes. Donc ça veut dire qu'il y a un risque particulier. Il y a, en termes de végétation, un couvert végétal assez haut qui est composé, exclusivement d'orésine. Il faut savoir que dans ce cadre-là, l'objectif, c'est de pouvoir positionner des tuyaux, des lignes d'eau au sol, de pouvoir amener de la pression avec les tuyaux le plus près possible des flammes.
Et la préfecture rappelle à la population d'éviter le secteur pour ne pas gêner les pompiers. 2 routes sont toujours fermées, la départementale 520A et la 1075.
Merci Chloé Lagadou. Et puis en Dordogne, 2 incendies fixés ce matin. Ils ont brûlé 90 hectares dans la forêt de la Double ce week-end. L'autre grand phénomène météo de cet été décidément difficile pour l'environnement, c'est la sécheresse qualifiée d'historique par le gouvernement. Les agriculteurs ne diront pas le contraire puisque même des exploitations typiquement estivales souffrent. Thibault Hue a rencontré une exploitante d'huile d'olive dans la Drôme. Geneviève craint de perdre 75% de sa production. Beaucoup de ces oliviers, pourtant résistants à la chaleur, ont grillé sous la canicule.
Ça, je ne l'ai jamais vu dans toute ma carrière. Une saison comme ça, où ça sèche, qu'il ne fasse pas une pluie. C'est une plante qui est du midi. Il aime la chaleur quand même, mais il aime aussi l'eau. C'est tout sec, il n'y aura rien. Et puis voilà, on fera avec. Oui, si on peut en sauver un quart, ce serait beau. Il n'y aura pas d'huile, on ne pourra pas les vendre pour la table. Irriguer pour augmenter le prix de revient, parce que l'eau, il faut la payer au mètre cube. Mais il faudrait tripler le prix de vente. Vous voulez la payer combien, l'huile ? 50 euros le 75 centilitres. On essaye de tenir le coup, hein.
Témoignage recueilli par Thibault Hue du côté de Montélimar, dans la Drôme. Et face à cette météo changeante, de plus en plus déréglée, le gouvernement envisage une hausse budgétaire pour l'environnement en 2023. 3,3 milliards d'euros, selon Gabriel Attal, le ministre délégué des Comptes publics, livre les grandes lignes du budget de l'an prochain à nos confrères des Échos. Bonjour Alexis de la Fontaine.
Bonjour.
Le gouvernement planche sur 339 milliards d'euros au total, budget devant notamment permettre de faire des économies.
Oui, fini le quoi qu'il en coûte, le plan de relance ou le bouclier anti-inflation. Gabriel Attal annonce une diminution de 0,3% des dépenses publiques. La réforme des retraites et l'assurance chômage financent les économies, assure le ministre, qui ne veut surtout pas dépasser les 5% de déficit. Mais ce budget vise aussi à financer les promesses de campagne du président. Emploi, formation, défense, sécurité et transition écologique, voilà les grands gagnants du budget 2023. Ce budget, c'est le carburant que nous mettons dans le moteur du pays, affirme Gabriel Attal. Par exemple, avec une hausse historique de 3,6 milliards d'euros pour l'éducation nationale, aucun enseignant ne commencera sa carrière à moins de 2000 euros net, une mesure nécessaire pour répondre à la pénurie d'enseignants.
Merci Alexis de la Fontaine. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, la hausse des crédits pour l'éducation nationale, l'un des points les plus saillants de ce futur budget. Les syndicats enseignants restent toutefois méfiants, circonspects. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU.
Derrière les effets d'annonce, ce qui nous intéresse surtout, c'est le caractère extrêmement concret. Aujourd'hui, on est très loin du compte parce qu'on a, par exemple, Gabriel Attal qui confirme l'idée d'avoir des enseignants débutants à 2000 euros. Alors, c'est un début, mais on ne peut pas s'en contenter. Aujourd'hui, un enseignant qui a 13 ou 14 ans d'ancienneté, il gagne 2000 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il gagnera la même chose qu'un enseignant débutant dans quelques mois ? Ça fait partie des questions qui sont sans réponse aujourd'hui. Il faut vraiment un message clair, des actes forts, une augmentation de salaire pour s'assurer de pouvoir recruter suffisamment d'enseignants dans les prochaines années pour que l'éducation nationale puisse remplir les missions qui sont les siennes.
Sophie Vénétité du SNES FSU, elle répondait aux questions de Noah Moussa. En France, on mise sur l'enseignement et la formation. Aux États-Unis, le président Joe Biden, lui, investit dans le climat et la santé. Il investit massivement. Son plan de 430 milliards de dollars a reçu le feu vert du Sénat. 370 milliards sont dédiés à la réduction des émissions de CO2. Le reste doit permettre de faire baisser le prix des médicaments. La Chambre des représentants devrait, elle aussi, donner son accord la semaine prochaine. La Chambre basse du Congrès, dont la chef Nancy Pelosi a décidément fait entrer la Chine dans une colère noire. Après sa visite à Taïwan la semaine dernière, Pékin a lancé d'impressionnantes manœuvres militaires autour de l'île. Les exercices devaient s'arrêter hier, mais ils sont prolongés encore aujourd'hui, en dépit des appels de l'Occident à la désescalade. Correspondance à Pékin de Sébastien Lebelzik.
Après 72 heures de tirs de missiles, de survols de Taïwan et d'un blocus maritime de l'île, les exercices de l'armée chinoise se concentrent depuis ce lundi sur des opérations anti-sous-marins et des assauts amphibies qui font suite à un blocus total de l'île qui n'a été levé que très partiellement ce matin. Pour Taïwan, il s'agit bien d'opérations visant à simuler une invasion. Des exercices qui mobilisent côté chinois plusieurs dizaines de milliers de soldats et des centaines de chasseurs de combat et de navires de guerre. Des manœuvres accompagnées de la diffusion de clips sur toutes les chaînes du pays où l'on entend, comme ici, des militaires crier leur amour du Parti communiste et leur souhait de reprendre l'île de Taïwan. Ces opérations militaires vont également s'étendre plus au nord, en mer Jaune, le long de la péninsule coréenne, avec là encore une importante mobilisation de l'armée chinoise qui devrait durer cette fois jusqu'au 15 août. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
À Gaza, la trêve entre Israël et le djihad islamique après 3 jours d'hostilité meurtrière est, semble-t-il, respectée. L'État hébreu a rouvert la frontière avec l'enclave pour laisser passer des camions de carburant ce matin. La centrale électrique de Gaza fonctionne à nouveau après 2 jours d'interruption. Les échanges de tirs entre vendredi et dimanche auront coûté la vie à 44 Palestiniens. Aux tirs de roquettes depuis Gaza, Israël a répliqué avec des raids aériens.
Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
L'actualité sportive à présent, vous l'avez vécu tout le week-end avec Virginie Fulpin et son équipe. La Ligue 1 est de retour. Bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
La première journée s'est achevée hier soir avec la victoire de l'Olympique de Marseille qui, après une préparation compliquée, s'est rassurée contre Reims.
Et oui, belle entame de l'OM qui s'est imposée 4-1 au stade Vélodrome. De quoi soulager les supporters.
Franchement, c'était magnifique. Il y avait plein de buts, c'était une ambiance de folie. Donc on est super content.
On s'est régalé, les recrues claquent 3 buts. Écoutez, tout le monde est content, les petits sont heureux à refaire quoi.
Et soulagement aussi pour le nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor, très décrié depuis son arrivée début juillet. Les mauvais résultats des matchs de préparation ne l'ont pas aidé. Son choix de laisser le capitaine Dimitri Payet sur le banc non plus. Hier, l'entraîneur croate a même été sifflé par le stade Vélodrome. Mais après la victoire, forcément, les supporters ont un peu changé de refrain.
Il a été hué, c'est un petit peu dommage. Il faut lui laisser le temps.
Ça prend forme, oui, je lui fais confiance, on lui donne encore du temps, mais c'est plaisant, quoi. On a mis quand même des buts.
Igor Tudor qui va maintenant devoir confirmer ce bon score dès dimanche prochain face à Brest.
Voilà les bons débuts de l'OM mais aussi ceux du Paris Saint-Germain, c'était samedi.
Et le PSG qui met déjà la pression sur ses adversaires, 5-0 face à Clermont. Grâce au duo Neymar-Messi, 1 but et 3 passes décisives pour le Brésilien, 1 doublé pour l'Argentin dont un très beau retourné acrobatique. Les Parisiens qui devraient en plus retrouver Kylian Mbappé dès samedi au Parc des Princes face à Montpellier. Et puis on retient également la bonne entame de Lyon contre Ajaccio avec le retour gagnant d'Alexandre Lacazette. Victoire aussi de Lille face à Auxerre et de Monaco face à Strasbourg. En revanche, Rennes s'est fait piéger 1-0 contre Lorient. C'est le seul favori qui finalement n'a pas été au rendez-vous ce week-end.
Le résumé de cette première journée, c'est signé Clotilde Dumais. Merci Clotilde. Et puis nous sommes lundi, on reprend les bonnes habitudes. Ce soir, c'est Ligue 2. Un match de la deuxième journée au programme. Caen affronte Metz à 20h45. Et puis un mot de tennis également. Début du premier Masters 1000 préparatoire à l'US Open, dernier grand chelem de la saison. Le Masters 1000 de Montréal sans Nadal et Djokovic, des Français dans le grand tableau comme Gaël Monfils, Benoît Paire ou encore Hugo Gaston.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo avec les 250 hôtels Kyriad. Partez à la découverte de nos régions sur kyriad.com.
La météo avec Valérie Darmon. Valérie, le soleil brille sur l'ensemble du pays.
Absolument, avec quelques nuages inoffensifs près de la côte atlantique et sur le sud-ouest notamment. Quelques averses orageuses sur les reliefs près des frontières espagnoles et italiennes ainsi que sur la Corse. Certaines débordent d'ailleurs sur le Haut-Var. Le vent de nord reste assez sensible sur les deux tiers nord de la France avec des pointes près de la Manche aux alentours de 40 km/h. Deux départements sont toujours concernés par une vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse, et donc l'atmosphère se réchauffe par le sud-ouest. Vos thermomètres vont afficher aux heures les plus chaudes de l'après-midi, 32 à 37 sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, ainsi que dans la vallée du Rhône et jusqu'au Var, 30 à 33 sur l'île de Beauté, le mercure qui gagne quelques degrés sur la moitié nord, avec des valeurs comprises entre 28 et 32 sur le sud-Bretagne, les Pays de la Loire, le centre, la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne, le bassin parisien, la région Grand Est, et puis enfin, du nord de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais, vous êtes les grands privilégiés de la météo, puisque vous comptez à vos thermomètres 23 à 27.
C'est bien noté, merci Valérie Darmon. Vous revenez plus tard dans la journée nous faire de nouveaux points météo, notamment à 18h tout à l'heure sur Europe 1.
Europe 1. Le choix de Mola.
Votre chronique littéraire de l'été, le choix de Mola, notre librairie partenaire à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dudus, Tuki, les Crips, la reine du Pacifique, vous ne connaissez pas ces noms, ce sont ceux de criminels. Et Stéphane Place, vous nous présentez un livre qui s'appelle Gang Stories et qui nous montre l'influence de ces anti-héros dans la culture populaire.
Oui, et au départ, Gang Stories, c'est un podcast raconté par Joe Starr avec un succès d'écoute qui a conduit à la publication de ce beau livre richement illustré. Beaucoup de photos, de dessins, 6 histoires de gangs qui font voyager le lecteur puisque nous allons à Tokyo, Los Angeles, Rio, Montréal, la Jamaïque, le Mexique sur les traces de criminels qui ne sont pas connus du grand public. Cet ouvrage se distingue par la richesse du travail d'enquête journalistique et les recherches qui alimentent ces pages, qui ne racontent pas seulement ces destins de hors-la-loi, mais aussi des époques, des cultures. Camille Perret est libraire chez Mola.
Le postulat de ce livre, c'est de raconter des histoires de criminels qui ne sont pas connus. On ne parle pas de Pablo Escobar, de Al Capone, de Mesrin ou des cartels très connus. Vous avez des choses très contemporaines qui se sont passées dans les années 2000, des choses qui sont passées dans les années 1960. En plus de ça, on voit l'évolution assez intéressante dans la politique, etc. Tout se suit, on arrive à se repérer hyper facilement dans le courant de l'histoire, dans les époques, même dans les tenues vestimentaires.
À l'origine de Gang Stories, un voyage, il y a une dizaine d'années, que réalise le journaliste et auteur Franck Aderer, qui se rend en Jamaïque. Et là, Bob Marley n'est pas la seule figure à orner les murs de Kingston. Il y a aussi un certain Dudus.
C'est là où je me suis rendu compte que le message, vu de façon un peu simpliste ici du reggae à savoir, et de Bob Marley, à savoir One Love, avait une profondeur bien plus importante là-bas, justement liée aux violences des gangs. Et je me suis rendu compte en allant à une soirée qui a lieu dans un quartier aussi défavorisé de l'ouest de Kingston, qui s'appelle Tivoli Gardens, que les gangs en question exerçaient sur la population une forme de contrôle, pas forcément un contrôle violent. Ils régissent une partie de la ville du quartier, ils construisent des écoles, ils financent des études. Et le chef du gang en question, Dudus, était considéré comme le président. C'était ce gang en particulier qui finançait cette soirée. Les chansons qu'on y entendait, c'était des chansons qui étaient à la gloire du gang. Je me suis rendu compte que ces chansons, les danses, même les modes vestimentaires que j'avais pu voir là-bas, commençaient à inonder la culture populaire mondiale. Et voilà, c'est à la base ce qui m'a intéressé à creuser ces histoires de gang à travers le monde.
Avec pour chaque chapitre une chronologie très claire, une bibliographie complète, mais aussi une playlist idéale pour accompagner la lecture de Gang Stories, qui ne se contente pas de nous faire frémir avec des histoires de petits doigts coupés chez les yakuza japonais ou de Kalachnikov dans les bidonvilles brésiliens. La force, l'intérêt de cet ouvrage, vous l'aurez compris, hein, consiste à explorer bien d'autres dimensions.
Le choix de Mola, c'est tous les jours de l'été sur Europe 1 avec Stéphane Place. Restez avec nous dans quelques instants maintenant, place au débat d'Europe Midi. Je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France. Bonjour.
Bonjour.
Et pour lui donner la réplique, Benjamin Lucas, député des Yvelines, écologiste de la NUP. Bonjour.
Bonjour.
On va revenir notamment sur ces dernières déclarations de Gérald Darmanin sur les rodéos urbains, mais également sur le fameux imam Iqiyoussen. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, place maintenant au débat d'Europe Midi. Je suis avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France, également maire de Mennecy, et Benjamin Lucas, député écologiste de la NUP, élu des Yvelines. Commençons par ce phénomène inquiétant, les rodéos urbains. Deux enfants grièvement blessés à Pontoise, dans le Val-d'Oise ce week-end. Deux autres en Gironde hier après-midi au Verdon-sur-Mer. Gérald Darmanin a pris la parole ce matin, il était en déplacement à Marseille. Il parle d'un phénomène criminel. On peut difficilement dire le contraire, Jean-Philippe Dugoin-Clément.
C'est un phénomène criminel à partir du moment où il y a un accident avec des blessés. Là, on est dans d'un point de vue pénal, dans quelque chose qui devient un crime. Après, on est sur un phénomène qui s'est aggravé ces dernières années, qu'on retrouve absolument partout, quelle que soit la typologie sociale des communes ou des quartiers. Alors, un peu plus dans des zones de quartiers denses et difficiles, mais qu'on retrouve dans toutes les typologies de quartiers et dont on est amené à parler un petit peu plus en ce moment parce qu'il y a une montée sur les périodes estivales de ce type de phénomène. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on connaît, et une multiplication de ces faits avec des accidents extrêmement graves. Moi, ce fait divers tragique qui est arrivé, je pense d'abord aux familles, parce qu'avant tout, ces deux enfants blessés, dont un grièvement, c'est des familles qui ont leur vie de fichu en l'air. C'est le gosse qui conduisait la moto, c'est sa vie aussi qui est fichue en l'air et celle de sa famille. Là, je voyais ce matin, il y a eu un nouvel accident en Gironde. Alors là, c'était deux gosses qui faisaient du rodéo qui se sont percutés. Les deux sont blessé, je ne sais pas dans quel état. Et tout ça, ça
il y en a
pose...
un qui a des égratignures, l'autre qui est grièvement blessé.
Et a priori, l'un est grièvement blessé. Et en fait, tout ça, ça pose la question de comment est-ce qu'on arrive à mettre un terme à ces situations qui ne font que prospérer depuis des années. Alors le ministre s'en empare. Bon, il y a un côté un peu Sarkozy chez Darmanin, c'est-à-dire c'est de la surréaction immédiate, dès qu'il y a un fait divers, d'aller sur le terrain, d'annoncer une réaction, éventuellement un nouveau texte de loi. Moi, je crois énormément sur ce type de fait à la confiscation, à la destruction des véhicules et à la recherche des véhicules.
Alors c'est possible si le véhicule n'est pas immatriculé, je me suis renseigné.
Oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui la réglementation n'est pas suffisante et n'est pas satisfaisante parce qu'on devrait pouvoir aller sur la confiscation systématique du véhicule. Assez souvent, il peut y avoir des opérations dans des caves, dans des garages qui servent de planque pour ce type de véhicule pour aller les chercher et le problème c'est que ces véhicules se retrouvent à être rendus, d'autant plus que généralement, la personne qui le conduit n'en est pas forcément le propriétaire. C'est des prêts entre les uns et les autres. Le véhicule volé, c'est totalement anecdotique et marginal. Donc moi, je crois énormément, si on veut éradiquer ce phénomène, à la destruction systématique des véhicules, ce qui est un moyen d'éradiquer le problème.
Benjamin Lucas, Gérald Darmanin annonce 10 000 contrôles ces prochaines semaines. C'est la réponse ?
C'est l'une des réponses. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. La confiscation des véhicules, c'est que si on enlève les véhicules, il n'y a plus de rodéo. Bon, donc il faut l'envisager très sérieusement. Je pense aussi, comme vous, aux familles, à tous les riverains. On est quand même tous saisis depuis effectivement plusieurs mois, plusieurs années maintenant, par des habitantes et des habitants qui nous font part de leur plus que leur exaspération, de leur sentiment d'humiliation. Il y a les nuisances, elles sont terribles, elles sont insupportables. Et puis il y a des accidents et des drames comme celui-ci qui sont aussi, et vous avez raison de le rappeler, des drames pour ceux qui conduisent ces véhicules et pour leurs familles. Donc là, il faut évidemment envisager toute la palette de réponses. La surenchère verbale, pourquoi pas ? Le ministre de l'Intérieur, il est dans son rôle. Bon, je ne vais pas alimenter inutilement une polémique avec lui. Mais là, il faut des solutions. Il faut passer des mots aux actes. Moi, je crois beaucoup au rétablissement d'une police de proximité. Je crois que plus on est au cœur du terrain en permanence, à voir, à observer, à comprendre et à pouvoir agir, mieux on fait. Donc je pense qu'il faut la police de proximité et je pense qu'il faut effectivement aller combattre le mal à la racine. La racine sont ces véhicules.
Voilà, ce premier tour de table, on va continuer de parler de la lutte contre les rodéos urbains. Comment lutter ? Faut-il renforcer l'arsenal juridique également, hein ? On en parlera juste après une petite pause sur Europe 1. Restez avec nous.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Le débat d'Europe Midi revient dans quelques instants, mais avant le rappel de l'essentiel de l'actualité avec Guillaume Buan. Bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Renforcement des contrôles pour lutter contre les rodéos urbains. Plus de 10 000 opérations prochainement contre ce phénomène qualifié de criminel par le ministre de l'Intérieur. C'était ce matin en déplacement à Marseille. Cela fait suite à l'accident vendredi à Pontoise où deux jeunes enfants de 10 et 11 ans ont été percutés par un motocross. Gérald Darmanin est également revenu sur la suspension par le tribunal administratif de Paris de l'imam Hassan Ben Ikoussen, accusé d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. Le ministre avait demandé son expulsion. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, considère comme Jean-Luc Mélenchon que la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan est une provocation. Pour lui, les propos de Jean-Luc Mélenchon ne l'ont pas choqué. Quatrième vague de chaleur en France, avec des températures une nouvelle fois élevées et au-delà des 30 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest et dans la basse vallée du Rhône. Le mercure va augmenter sur la moitié nord demain et mercredi avant un pic en fin de semaine. Une chaleur qui provoque donc de nombreux incendies. En Bretagne, entre samedi et hier, plus de 300 hectares de végétation sont partis en fumée. Dans le Finistère, les monts d'Arrée ont été fortement touchés. Idem dans le golfe du Morbihan. Le budget 2023 dévoilé par le gouvernement avec une augmentation de 12 milliards 500 millions d'euros. Les ministères concernés sont les suivants: l'éducation, le travail et les solidarités. Le bloc régalien, défense, justice, intérieur et affaires étrangères n'est pas en reste avec plus de 6 milliards d'euros de budget. Le gouvernement qui disposera donc d'un budget de 339 milliards d'euros l'année prochaine. Voilà Raphaël.
Merci Guillaume Buan, que vous retrouvez toute l'après-midi sur Europe 1 jusqu'à 17h. À tout à l'heure Guillaume. Nous continuons d'évoquer les rodéos urbains, les moyens de lutter contre ce phénomène. Alors, au Royaume-Uni, les policiers ont droit de tamponner les chauffards. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire en France, Benjamin Lucas ?
Je sais pas, je suis pas spécialiste. Je sais pas si cette mesure a un impact positif ou pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Je crois que les solutions évoquées précédemment de confiscation des véhicules sont plus efficaces qu'un truc un peu folklorique, quand même.
Non, tamponner le véhicule par nature, non. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les policiers ne poursuivent pas ou poursuivent extrêmement rarement du fait du risque de suraccident et que c'est quelque chose qui est absolument inadmissible et intolérable pour les gens qui sont victimes de ces phénomènes où ça dure des heures. Ils voient à côté d'eux des crosses qui prennent des pieds d'immeubles pour des lieux de rallye et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et je pense qu'effectivement, la police devrait être beaucoup plus accompagné, beaucoup plus soutenu pour pouvoir poursuivre, sans chercher à tamponner, c'est pas la question, mais pour pouvoir poursuivre. Ça pose aussi la question, indépendamment de la confiscation des véhicules, du renforcement de la vidéoprotection d'une manière générale pour pouvoir tracer, pour pouvoir pister les véhicules, parce que la question n'est pas forcément d'arrêter systématiquement sur le fait le véhicule, mais de pouvoir savoir où il est garé, de pouvoir le repérer. Donc effectivement, c'est des moyens humains que vous évoquiez tout à l'heure en termes de moyens policiers, en termes de moyens de force de l'ordre, mais c'est aussi s'appuyer sur les moyens techniques dont on peut disposer aujourd'hui.
Dernière question sur l'arsenal pénal aujourd'hui. Si on tue quelqu'un en faisant un rodéo urbain de façon involontaire, on encourt jusqu'à 5 ans de prison. C'est peu. Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Je ne sais pas quel est l'arsenal là-dessus. La réalité, c'est que...
C'est celui-là, en fait, 5 ans de prison.
Le problème, c'est qu'il y a 2 ans, on a créé une loi sur les rodéos urbains où, en fait, on pénalise le rodéo urbain.
2018.
Et donc, on est susceptible d'avoir jusqu'à 5 ans de prison, y compris quand on ne tue pas quelqu'un. Et donc, la réalité, c'est que quelqu'un, un gosse de 15, 16, 17, 18 ans qui est poursuivi devant un juge, ne va jamais y avoir une condamnation de ferme parce qu'il a fait une roue arrière. Donc, c'est une loi, en fait, qui est inapplicable et qui n'a pas de sens. Moi, je pense que plutôt que d'avoir des lois très volontaires, très ambitieuses, mais qui ne sont pas appliquées, vaut mieux avoir une application d'une règle systématique et stricte. Et c'est pour ça que je reviens sur la confiscation et la destruction systématique des véhicules.
Benjamin Lucas.
Oui, d'accord, la surenchère pénale, si c'était la solution, on pourrait en discuter. Mais en l'occurrence, sur ce sujet comme sur d'autres, les lois qui durcissent, mais qui ne changent rien à la réalité, qui est subie, encore une fois, par des centaines, par des milliers d'habitants, notamment dans nos quartiers populaires, qui souffrent des rodéos urbains, ce qu'ils attendent, ce n'est pas qu'on vote dans les mois ou années qui viennent une loi plus dure, plus brutale, plus répressive, c'est qu'il n'y ait plus de rodéo en bas de chez eux. C'est à ça qu'on doit s'atteler.
Alors, pour clore ce chapitre sur les rodéos urbains, sachez que depuis que Gérald Darmanin a mis un coup de pression sur le sujet, c'était le 12 mai dernier, 1144 interpellations, 673 bolides saisis. Sur les 1144 interpellations, 534 sont dans le Val d'Oise, où se trouve Pontoise et où il y a eu ce drame vendredi dernier. Alors, Gérald Darmanin a évoqué également tout à l'heure l'affaire Hassan Ikyusen, qu'on présente présente comme un imam qui est plutôt un prédicateur, un influenceur. Il a 150 000, plus de 150 000, 170 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est vrai qu'il tient des propos parfois douteux sur les juifs, sur les femmes. Et Gérald Darmanin cherche à le faire expulser. Son titre de séjour n'a pas été renouvelé, mais le tribunal administratif de Paris a dit non. C'est une sanction excessive, parce que disproportionnée pour être exact, parce qu'il a notamment une famille. Gérald Darmanin a fait appel devant le Conseil d'État et il estime être dans son bon droit. C'était tout à l'heure à Marseille.
Cet imam, je mets des guillemets, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Il appelle à considérer que les attentats qu'il y a eu sur le sol français étaient des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il est radicalisé. Je regrette personnellement les motivations et la décision du tribunal administratif de Paris, qui considère que la vie familiale de ce monsieur l'emportait sur la protection des intérêts des Français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, nous étudierons ensemble les moyens de donner à la République, à la France, de se défendre et de modifier la loi s'il le fallait, pour que les prédicateurs de haine qui ne sont pas français n'aient rien à faire sur le sol de la République.
Hassan Iqiyoussen, dont on apprend qu'il est fiché S également depuis 18 mois. Du côté de la NUP, certaines voix insoumises, celles de David Guiraud, de Manuel Bompard, s'opposent à l'expulsion de ce prédicateur controversé. Quelle est votre position, Benjamin Lucas ?
Le sujet, c'est pas ce monsieur. Le sujet, c'est le droit, rien que le droit, tout le droit. Et moi, je suis assez peiné qu'un ministre de l'Intérieur en vienne à commenter des décisions de justice. Il y avait des prédécesseurs qui s'astreignaient à une certaine réserve de ce point de vue-là. Il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas militant politique, là, Gérald Darmanin. Le droit, rien que le droit, tout le droit. Et moi, la question n'est pas sur le sol français ou pas. La question, c'est quand il y a des délits graves, quand il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi, l'antisémitisme tombe sous le coup de la loi, la négation des génocides tombe sous le coup de la loi, etc., etc. Il faut des condamnations, il faut une justice qui passe très fermement en France. Et il faut des poursuites, et c'est pour être ça le rôle aussi du ministre de l'Intérieur, plutôt que de faire une espèce de théâtre médiatique permanent. Pourquoi au fond pour monter en épingle une situation, pour se donner une espèce de beau rôle vis-à-vis d'un certain électorat. Bref, encore une fois, là on est dans une communication, on n'est pas dans le fait de régler un certain nombre de situations, et de situations dramatiques, notamment liées à la radicalisation. Donc moi je crois que la ligne de conduite, la boussole, besoin de vacances. Pour tous les républicains, c'est le droit, rien que le droit, tout le droit. Moi, j'étais opposé à la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français quand François Hollande l'a proposé. C'est sur cette question-là que s'est entamée ma rupture avec le Parti Socialiste. Je crois que les principes qui font notre République sont forts. Et je termine d'un mot, c'est ceux qui attaquent en permanence ces principes, ceux qui prêchent la haine, ceux qui prônent une vision fondamentaliste des religions et l'extrémisme. Leur premier adversaire, ce sont nos valeurs. C'est le fait que nous soyons un état de droit qui s'assoit sur des valeurs qui s'appliquent à toutes et à tous, y compris à nos adversaires, à nos ennemis intimes et aux ennemis de la République. Donc je crois que chérir l'état de droit, ça doit être la responsabilité de tous les républicains.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce que l'imam, si on peut l'appeler comme ça, le prédicateur Hassan Iqiyoussen doit rester en France dans la mesure où il est apparemment radicalisé, fiché S ?
Non,
et qu'il n'est pas français.
Non, bien évidemment. Après, il y a deux questions. Il y a une question juridique, il y a eu une interprétation qui a été faite par le tribunal administratif, le Conseil d'État reviendra peut-être dessus. On peut se poser la question d'ailleurs de la façon dont a été monté le dossier par les services du ministère pour demander l'expulsion, puisque l'expulsion avait été acceptée par le Maroc pour l'accueillir. Visiblement, le fait qu'il soit fiché...
Dans la plupart des OQTF, le pays d'origine s'oppose. Cette fois, il est OK.
Là, ça avait été accepté. La Cour européenne des droits de l'homme l'a accepté. Le tribunal administratif ne l'accepte pas, visiblement, le fait qu'il soit fiché S ne figurait pas dans le dossier d'expulsion. On verra ce que fait le Conseil d'État. La réalité, effectivement, et là je rejoindrai le ministre de l'Intérieur, est que si le Conseil d'État devait confirmer le droit actuel, c'est-à-dire la décision du tribunal administratif de laisser sur le sol français un imam qui est donc quelqu'un qui est vecteur d'influence. On ne parle pas de quelqu'un qui est le matin à 8h au zinc du café du commerce. On parle de quelqu'un qui est un vecteur d'influence sur des gens, sur des jeunes, quelqu'un qui tient des propos antisémites, homophobes, anti-liberté des femmes. Eh bien, je pense qu'effectivement, il faudrait dans ce cas-là modifier le corpus réglementaire français. On ne peut pas. L'état de droit ne veut pas dire qu'on doit doit être faible. L'État de droit ne doit pas tout autoriser. Et l'État de droit doit aussi mettre des limites sur ce que nous pouvons accepter ou pas sur le territoire français.
Et puis c'est assez difficile de trancher, parce que si vous regardez la chaîne YouTube d'Hassan Iqiyoussen, il y a des vidéos effectivement assez douteuses. Et puis d'autres où il y a un discours très favorable à l'intégration des musulmans à la France, etc. C'est un échec la loi séparatiste qu'on avait fait voter durant le précédent quinquennat.
Moi, j'ai combattu cette loi, mais je ne veux pas faire de signe égal, mais enfin, combattons le mal et la haine partout où elle se niche. La majorité de M. Darmanin a quand même permis à deux élus du Rassemblement National, c'est-à-dire un parti fondé par d'anciens SS, dont le président d'honneur pendant 10 ans était Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné à une dizaine de reprises pour antisémitisme, pour incitation à la haine, a permis d'acquérir des positions de pouvoir. C'est bien plus dangereux pour la République.
Et on peut s'interroger de voir qu'Hassan Iqiyoussen ne l'est pas, visé par aucune plainte.
Moi, je suis pour une intransigeance et une fermeté absolue en matière de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre le racisme, la haine, contre le négationnisme, contre tout ce qui finalement attaque ce que sont nos valeurs républicaines. Mais encore une fois, je crois que c'est à la justice et au droit de pouvoir faire le travail, et qu'il faut, s'il faut renforcer pour le coup l'arsenal pénal pour l'antisémitisme, les appels à la haine, pour tout ce qui attaque les valeurs de la République, moi vous me trouverez toujours de manière à le soutenir. Simplement, je dis attention à ce que pour des causes qui peuvent apparaître justes, que pour des combats qui peuvent apparaître justes, parfois, on ne sacrifie pas ce que sont nos valeurs. C'était le même débat au moment après les attentats. Quand François Hollande a voulu faire la déchéance de la nationalité, on parlait quand même de passer par pertes et profits, ce que sont les valeurs qui fondent la République et les principes de l'État de droit. Je dis faisons attention, parce que le jour, quand on a des cas parfois qui sont simples, j'allais dire, avec des propos qui sont simples, qu'on identifie, etc. Le jour où on entre dans la zone de nuance, on sera bien content d'avoir un État de droit qui permet de protéger les droits de tous, y compris de ceux qu'on veut condamner par ailleurs.
Et c'est toujours très difficile. Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Oui, deux choses. Moi, je reste persuadé que l'État de droit ne doit pas permettre, ne doit pas autoriser d'avoir des personnes qui véhiculent des valeurs qui sont contraires au corpus républicain sur le territoire national quand ils ne sont pas nationaux eux-mêmes. De la part de nationaux, eh bien, il y a une question pénale qui doit s'appliquer. De la part de non-nationaux, il doit y avoir une expulsion de manière systématique. Après, il y a une véritable question qu'on peut se poser, c'est que ça fait 20 ans que ce prédicateur tient ce type de propos. Et ça fait 20 ans, visiblement, qu'il y a eu assez peu de poursuites par rapport à l'ensemble des propos qu'il a eus. Il y a eu des renouvellements de ses titres de séjour, y compris après que certaines poursuites aient été enclenchées. Et donc, le sujet sur lequel je pense qu'on doit collectivement s'interroger, c'est à quel moment est-ce qu'on lance l'alerte et pourquoi est-ce que systématiquement l'État ne porte pas plainte dès qu'un fait est recensé.
Il y a une grande hypocrisie de ce gouvernement, pardon, j'y reviens parce que c'était ce dont on a discuté à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Ce gouvernement, en même temps qu'il nous fait peinture de guerre sur le torse à l'appui des grands discours contre la radicalisation et l'islamisme radical, et qu'il faut être ferme vis-à-vis de cette question-là, il passe un accord pour envoyer la police française au Qatar pour aider à la Coupe du Monde, un pays qui condamne à mort les homosexuels et qui reçoit le bourreau saoudien qui accorde aux femmes le statut de mineur et qui a fait découper en morceaux un journaliste. Il le reçoit avec le tapis rouge à l'Elysée. Donc l'islamo-affairisme, ça compte aussi. Et là aussi, il faut que dans ce cas-là, M. Darmanin ait la même verve, la même capacité à agiter les médias sur toutes les questions liées à l'islamisme radical, et pas simplement quand il veut faire un numéro de claquette dans le nord de la France.
Restez avec nous, la dernière partie du débat d'Europe Midi sera consacrée à un homme de verve également, dont la prise de position ne laisse pas indifférent. Il n'y a qu'une Chine, nous dit Jean-Luc Mélenchon, c'est un parti pris évident. Nous continuons d'en parler sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Nous sommes avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France, et Benjamin Lucas, député écologiste de la NUP, élu des Yvelines. Le front uni de la gauche tient fissuré par un certain Jean-Luc Mélenchon qui a pris clairement position en faveur de la Chine en plein regain de tension autour de Taïwan. Il martèle qu'il n'existe qu'une seule Chine. Benjamin Lucas, je me tourne vers vous parce que vous avez publié un long communiqué sur les réseaux sociaux pour vous désolidariser de la position de Jean-Luc Mélenchon, mais en expliquant qu'il n'y avait pas de quoi être surpris en fait.
Non, j'essaie de dire plusieurs choses. D'abord, vous vous appelez long. Moi, je crois qu'il faut qu'on reprenne un peu le sens, notamment sur les questions-là, de la nuance et de l'intelligence. On ne peut pas résumer en 140 caractères des questions aussi graves et importantes, à la fois que la question posée par Jean-Luc Mélenchon et la question...
C'est pas un reproche à nos communiqués.
Non, bien sûr, non, mais j'en profite. plusieurs choses. Jean-Luc Mélenchon, il a une position qui est ancienne et qui est connue. Moi, je ne la partage pas du tout. Ceci dit, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas lui faire le reproche que ce ne soit pas une position sincère chez lui. Par ailleurs, elle rejoint ce qu'est, et je le regrette là aussi, la position officielle de la France sur le fait de ne reconnaître qu'une seule Chine, etc. etc. Moi, ma boussole, ma ligne de conduite, c'est d'être toujours du côté des démocrates partout, du côté des démocrates à Taïwan, d'être du côté des démocrates à Kiev, d'être du côté des démocrates qui se battent pour la démocratie partout, et je pense que c'est ça la voie de la gauche et la voie de la France. Après, et je le dis parce que on a vu, vous avez parlé, vous avez évoqué une fissure dans la gauche. La gauche.
Si je dis ça, c'est parce que les socialistes, Europe Écologie Les Verts, donc Monsieur Bayou, Monsieur Faure, se désolidarisent totalement de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon.
Nous avons.
C'est une fissure, vous êtes d'accord ?
Non, ce n'est pas une fissure. Il faudra qu'on s'habitue à ça à l'avenir. Mais nous, les premiers, mais vous aussi, les commentateurs, c'est que la division, la dispute parfois, la controverse, le débat, ce n'est pas de la division. L'histoire entière de la gauche, depuis Jaurès et Guède, depuis le programme commun à l'époque où il y avait une Union soviétique, l'histoire entière de la gauche, elle est façonnée par des grands débats sur des questions qui sont majeures. Moi, je ne cherche pas à les minimiser, ce sont des questions qui sont importantes. Les questions internationales, elles sont majeures, elles sont centrales. Le rapport à l'Europe, il est important. La gauche, elle a toujours été traversée par des grands débats comme cela. Donc ce n'est pas de nature à remettre en cause notre unité, qui est une unité au service d'un projet que nous avons construit ensemble, sur lequel il y a 650 mesures. Donc il faut aussi qu'on se désintoxique à cette espèce de volonté permanente d'être le petit doigt sur la couture du pantalon et de penser et de dire tous la même chose. Non, l'histoire de la gauche, c'est des grands débats sur des grandes questions historiques. Le rapport à la réforme ou à la révolution, il a traversé la gauche pendant un siècle. Le rapport à l'Europe, il la traverse encore. Le rapport à l'Amérique, la traverse encore. Ce sont des grandes questions. L'union, ce n'est pas la fusion. L'union, ce n'est pas d'avancer en bloc comme le macronisme, finalement, qui consiste à répéter des éléments de langage qui seraient tous les mêmes. Non, il faut du débat. Et c'est pour ça que j'ai appelé dans le communiqué auquel vous faisiez référence à ce que la nouvelle Union populaire écologique et sociale soit un outil politique dans lequel on soit capable de porter ces débats-là, qui sont des débats importants. Nous avons une culture militante, une culture où on se parle, où on essaye de se convaincre et où on débat avec des idées, des convictions qui sont chevillées au corps. Les nôtres sont fortes, celles de Jean-Luc Mélenchon sont fortes. Donc il faut faire plus qu'une simple coordination entre nous. Il faut un appareil politique qui nous permette de débattre et de poser à ciel ouvert, devant les Français, en transparence, ces grands débats qui traversent la gauche, mais qui traversent aussi la société, hein, évidemment.
Alors ces dissonances, appelons-les comme ça, au sein de la NUP sur Taïwan, on va donner la parole à Jean-Philippe Dugoin-Clément dans quelques instants, mais bon, face à cela, vos adversaires se frottent les mains, évidemment. Louis Alliot, le maire de Perpignan, était l'invité de la matinale d'Europe 1.
Monsieur Mélenchon a l'indignation ou le soutien sélectif. Il est toujours en train de défendre tous les mouvements d'autodétermination partout dans le monde, surtout quand ils sont contre la France. Mais par ailleurs, quand la Chine, avec Taïwan, mène des actions d'intimidation, eh bien, il est du côté du dictateur chinois. Ça rend beaucoup de ce que pense monsieur Mélenchon au fond.
Jean-Philippe Dugoin, il a des indignations à géométrie variable, monsieur Mélenchon.
Oui, il a des indignations communes avec le Front National, hein, parce qu'entendre monsieur Alliot attaquer monsieur Mélenchon alors que les deux étaient des admirateurs de Poutine, je trouve ça quand même assez croustillant.
Vous n'avez pas tort, Jean-Luc Mélenchon disait que l'Ukraine, quand elle bombardait le Donbass, avant l'accélération du conflit le 24 février dernier, disait que l'Ukraine provoquait la Russie. Voilà.
Oui, mais
Jean-Philippe Dugoin-Clément.
On a un Jean-Luc Mélenchon qui fait du Mélenchon depuis des années, c'est-à-dire il y a une sorte de fascination pour les régimes forts, on va dire ça d'un terme pudique, hein. Ça a été Chavez, Castro, on n'a pas eu droit à la Corée du Nord, mais enfin on a eu la Chine et la Russie. De ce point de vue-là, effectivement, il y a beaucoup de points communs avec l'extrême droite en France par rapport à la Russie. Moi déjà j'ai tendance à dire, heureusement que Mélenchon n'est pas Premier ministre, parce que je ne sais pas quelle serait la position du pays pour gérer cette situation de crise avec un désaccord majeur entre les partis composant l'Union de la gauche qui s'est regroupée autour de la NUPES. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on mesure aujourd'hui la vision du monde qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est extrêmement excessive. On est sur quelqu'un qui provoque le débat en permanence, mais de manière excessive. On peut se poser la question du bien fondé ou pas de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. C'est le cas notamment de la Corée du Sud ou du Japon. Donc on ne peut pas dire que c'est des pays pro-chinois qui, parce que ça crée un regain de tension dans un secteur qui est déjà une poudrière, dans un contexte de politique internationale qui est extrêmement complexe, n'y était pas favorable.
Ça n'est pas la première fois qu'une chef de député américain Pékin se rend à Taïwan. Il y a un raidissement de la position chinoise.
Il y a un durcissement de la position chinoise actuellement. Depuis quelques années, on le voit bien à Hong Kong. Enfin, le Covid fait qu'on n'a plus parlé de Hong Kong. Mais enfin, la théorie d'un État, deux régimes ou deux systèmes, lorsque Hong Kong a été rattaché à la Chine, est-ce qu'il faut rappeler, il y a 2 ans et demi, 3 ans, les manifestations, les répressions qu'il y a eu à Hong Kong, la Covid est arrivée dessus, plus personne n'en a parlé, mais on mesure à quel point les 24 ou 25 millions d'habitants de Taïwan peuvent n'avoir aucune envie de rentrer sous le joug du Parti communiste chinois, oui.
Benjamin Lucas, vous énervez pas, promis. Hein. Est-ce que l'analyse, les analyses géopolitiques de M. Mélenchon ne marquent-elles pas la différence entre la gauche et l'extrême gauche ?
Non, d'abord, pour moi, il n'y a pas de réalité historique à l'extrême gauche aujourd'hui. Bon, mais on n'interroge pas les positions de M. Raffarin sur ses complaisances avec le régime chinois. On n'interroge pas aujourd'hui. Toutes les familles politiques sont traversées par des débats sur la question géopolitique. Toutes. Si on fait l'effort intellectuel de regarder, l'UMP, à l'époque de M. Copé, a passé un partenariat avec le Parti communiste chinois. Bon, je ne crois pas que ce soit le cas de la France insoumise. Non, mais regardons les choses telles qu'elles sont. Monsieur Macron, je l'ai dit, reçoit des dictateurs peu recommandables à qui il offre les honneurs de l'Élysée. Là, on se centre sur Mélenchon. Vous avez cité tout à l'heure dans votre journal vous-même le fait que Fabien Roussel du PC avait dit à peu près la même chose et avait la même ligne que lui. Encore une fois, c'est une ligne avec laquelle je suis en désaccord. Mais je pense que mon désaccord est suffisamment profond et important sur ce sujet-là avec mon camarade Mélenchon, pour que je n'en rajoute pas dans une espèce de caricature outrancière de ce qu'il est et de ce qu'il défend. Mais encore une fois, ce que je trouve curieux, c'est qu'on fasse mine de s'en offusquer ou de s'en indigner, alors que c'est une position qui est très ancienne. Moi, je ne partage pas. Je crois qu'en fait...
Non, mais est-ce qu'il y avait besoin de la réaffirmer à ce moment-là ? C'est vrai que pendant la campagne présidentielle, on a beaucoup renvoyé à M. Mélenchon ses positions passées sur Bachar el-Assad, sur Vladimir Poutine.
C'est pour ça que moi, j'étais
opportun de dire il n'y a qu'une seule Chine.
Il en a fait 3 lignes sur une note de blog. Mais la diplomatie française dit la même chose. Donc je suis en désaccord avec lui. Mais je vois pas pourquoi quand la diplomatie française le dit, c'est bien. Et quand Jean-Luc Mélenchon le dit, c'est pas bien. Moi, c'est une position que je ne défends pas et que je combats même. Mais je la combats au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et vis-à-vis de la diplomatie de mon pays. Encore une fois, je pense qu'on est sur des sujets tellement graves et tellement sérieux qu'il faut pas essayer de les récupérer en matière de politique intérieure. Ce qu'a fait Louis Alliot, là, que vous avez passé. Bon, les leçons de la part du Rassemblement National sur la complaisance à l'égard des dictateurs, on va éviter de rentrer dans le sujet, parce que moi je ne suis pas financé, personne dans la NUPES est financé par M. Poutine, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen.
Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Oui, la politique internationale, c'est aussi malheureusement, parce que ça fait partie du lot, c'est de la réelle politique, c'est parfois accepter de transiger, c'est parler avec des régimes avec qui on n'a rien en commun et avec qui dont on ne partage pas les valeurs. Et ça, tous les États le font, quels qu'ils soient. La différence, c'est que de la part de M. Mélenchon, il y a une sorte de fascination. On est au-delà, enfin, personne ne lui demande d'exprimer les choses de la façon dont il les exprime. C'est ça qui est beaucoup plus gênant dans le discours mélenchoniste aujourd'hui. Et c'est ça, à mon avis, qui est une ligne de rupture ou de fracture ou de difficulté, appelez ça comme vous voulez, au sein de la NUPES. Après, moi, il y a quand même une chose que je trouve assez curieuse ou pas, c'est de voir l'indignation aujourd'hui d'un certain nombre de responsables de la NUPES. Et ça, je vous rejoindrai. Quand je vois M. Bayou, M. Faure, enfin, il y a 3 mois, quand ont été négociés les accords pour les législatives, pour garantir qu'il y ait des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Mais ils connaissaient parfaitement les positions de M. Mélenchon depuis des années.
Ça n'a pas été évoqué, ça, pendant les négociations, Benjamin Lucas ?
Je rejoins parfaitement sur le fait que M. Mélenchon est constant. Il est constant, pour moi, dans l'erreur, mais il est constant. Et donc, aujourd'hui, jouer aux vierges effarouchées sur la thématique de se rendre compte que M. Mélenchon peut avoir des positions sur la politique internationale qui sont hors normes par rapport aux valeurs de la République et de la démocratie française, aux valeurs universalistes qu'on peut porter, je trouve que c'est un peu fort de café.
Nous avons là un premier cas pratique sur la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On a fait une alliance inédite.
Mais vous n'en aviez pas parlé au moment des négociations.
On savait qu'on n'était pas d'accord sur ces sujets-là. On le savait. On s'est mis d'accord
donc on en parlait pas,
sur l'Europe.
Parce qu'il fallait un compromis à tout prix.
Non, mais parce que c'est, encore une fois, c'est l'histoire entière de la gauche que d'avoir des sujets, notamment sur les questions géopolitiques, de désaccords qui sont importants. Et donc, c'est pour ça que moi, je plaide pour que nous sachions. Vous savez, la politique, c'est l'art d'exposer ces désaccords, d'essayer de se convaincre ou parfois de dépasser ces désaccords en se mettant d'accord. Donc, moi, je plaide pour que la nouvelle Union populaire sanitaire, écologique et sociale ne soit pas simplement une coordination parlementaire ou une coordination partidaire. Je plaide pour que ce soit un outil politique démocratique, décentralisé, déconcentré, dans lequel on puisse aborder à ciel ouvert, en transparence vis-à-vis des Français, ces grands débats. Je sais qu'il y a des débats sur ces questions-là et sur d'autres dans toutes les familles politiques. Ce serait l'honneur de la gauche que de les aborder dans la transparence et la démocratie, ce qui n'est pas le cas. En Macronie, c'est Macron qui décide. Et à l'extrême droite, c'est Le Pen qui décide et c'est la culture du chef. Ce n'est pas notre cas. Moi, je me réjouis qu'il y ait la démocratie.
Elle va partir normalement.
Je me réjouis qu'il y ait... Oui, bien sûr. Je me réjouis qu'il y ait de la démocratie, je me réjouis qu'il y ait du débat. On ne peut pas, et je termine par ça, dire c'est bien qu'il y ait un Parlement qui reprenne ses droits. Il faut du parlementarisme. On défend la proportionnelle, le pluralisme des idées et ne pas l'accepter, ne pas le vouloir pour nous-mêmes. Donc c'est un exercice. La démocratie, c'est toujours plus compliqué que l'autoritarisme. Mais je crois que ce serait l'honneur de la NUPES que de franchir une nouvelle étape démocratique et qu'on se parle de façon, y compris quand on n'est pas d'accord, à essayer de se convaincre les uns les autres, ou au moins à montrer aux Français que ces débats sont des débats importants et qu'on les mène avec les citoyens.
Comme tous les jours dans le studio d'Europe 1, merci Benjamin Lucas, député des Yvelines, écologiste de la NUP. Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France et également maire de Mennecy.
Merci à vous.
Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition d'Europe Midi. Dans quelques instants, vous retrouvez Elisabeth Assayag pour les meilleurs moments de La France Bouge. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour Europe Soir de 18h à 20h. A tout à l'heure sur Europe 1.